Bon, le Seigneur me fait plein de surprises ces derniers temps et c'est assez désagréable, donc je suis assez content d'arriver en vacances parce qu'il devrait... Enfin, j'en sais rien, je sais pas, on verra comment se passent les vacances, mais rien ne se passe jamais comme prévu ces derniers temps. J'ai dit il y a, je sais plus, il y a peut-être 2 mois ou 3 mois, je me rappelle plus, j'avais cité cette parole de Emmanuel Lévinas qui dit... les visages avant la Torah, et je vous avais dit que je voulais appliquer ça à mon ministère, les visages avant la Torah, donc c'est ce que je fais, et ça me donne l'opportunité de découvrir que vraiment il y a beaucoup, beaucoup de visages, donc c'est compliqué parfois de laisser de la place à l'étude, à la préparation, des prédications et tout ça, mais Dieu est fidèle, parce que je dois dire que malgré tout, et notamment sur les 3 dernières prédications, là où effectivement je manquais pas mal de temps pour préparer, il y a eu des fruits étonnants, en fait, des fruits étonnants. Alors, je ne sais pas ce que vous avez pensé de ces prédications, mais en tout cas, c'est très réjouissant de voir quand il y a du fruit derrière, c'est-à-dire des gens qui effectivement font des pas de foi. Et donc, ce matin, c'est un peu la même chose. C'est à nouveau quelque chose comme ça. J'avais une prédication et puis je prêche sur complètement autre chose. Voilà. Donc, parce que le Seigneur m'a mis ça à cœur ce matin. Et cette prédication, elle prend la suite en fait, de celle que j'ai faite la dernière fois sur Caïn. Et donc, on est en Genèse 4, les versets 9 à 16. Et c'est vraiment dans l'obéissance que je la fais, dans l'obéissance et dans la confiance aussi, parce que ça a aussi été une des thématiques de la semaine, ça, parmi les gens que j'ai rencontrés, apprendre à faire confiance à Dieu. Donc je m'en remets à lui, et puis que cette prédication porte le fruit qu'elle doit porter dans vos vies. Genèse 4, à partir du verset 9 jusqu'au verset 16, nous dit ceci. Alors, le contexte, hein, c'est donc Caïn qui vient de tuer Abel, son frère. Ils ont apporté chacun leur offrande. L'offrande d'Abel a été agréée par Dieu, celle de Caïn, non. On a expliqué un peu la dernière fois pourquoi. Et, en tout cas, on a donné des explications possibles. Et donc là, on arrive sur la suite, à partir du verset 9, où le Seigneur dit à Caïn, « Où est Abel, ton frère ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Alors il reprit, « Qu'as-tu fait ? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit, chassé de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras la terre, elle ne te donnera plus sa force. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Caïn dit au Seigneur, « Ma faute est trop grande pour être prise en charge. Tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché, tu ne me verras plus, je serai errant et vagabond sur la terre. Et si quelqu'un me trouve, il me tuera. » Le Seigneur lui dit, « Alors si quelqu'un tue Caïn, on le vengera 7 fois. » Et le Seigneur mit un signe sur Caïn pour que ceux qui le trouveraient ne l'abattent pas. Puis Caïn se retira de devant le Seigneur et s'installa au pays de Nod, qui veut dire vagabondage, à l'est d'Éden. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Nous savons que cette parole, c'est une parole qui vient nous chercher, nous, dans nos vies, une parole qui vient nous parler à nous, ici et aujourd'hui, alors que ce sont des textes multimillénaires, Seigneur, mais qui parlent de notre condition humaine qui, elle, n'a pas changé, qui parlent de qui tu es et tu n'as pas changé non plus. Alors nous approchons cette parole avec cette confiance qu'elle est pour nous, qu'elle est vivante et qu'elle vient transformer nos cœurs et nos vies. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Alors, dans ce texte, on voit que Dieu maudit Caïn. Caïn est maudit, c'est ce qui nous est dit ici. Et la première chose qu'on peut dire, sans doute, c'est que le péché... Je parle là du péché qui est mené à son terme, qui est consommé jusqu'à jusqu'au bout, quoi, consommer jusqu'au bout. Ce péché qui endurcit notre cœur au point de pouvoir être endurci comme celui de Pharaon, c'est-à-dire jusqu'à parfois un point de non-retour, eh bien, il entraîne la malédiction dans nos vies. Alors, une malédiction, c'est quoi ? D'abord, on peut dire ce qu'est une bénédiction. Une bénédiction, c'est dire le bien que dit Dieu. Et ça vaut la peine de le rappeler parce que parfois, on pense que la bénédiction, c'est dire des choses gentilles et jolies aux gens. Et en fait, ça n'a pas tant de rapport avec le bon et le mauvais, c'est-à-dire dire des choses qui nous semblent à nous bonnes et positives. Ça n'a pas tant de rapport avec le bon et le mauvais qu'avec la vérité et le mensonge. Bénir, c'est dire la vérité à quelqu'un. La vérité, parfois, elle est désagréable à entendre, elle peut paraître pénible, et ça reste une bénédiction. Et parfois, le mensonge est doux à entendre, et il fait du bien même à celui qui l'écoute, et pourtant, c'est une malédiction parce que c'est faux. La malédiction, c'est finalement dire autre chose que le bien que dit Dieu. Donc on a des paroles bonnes qui peuvent être maudissantes quand elles disent autre chose que la vérité de Dieu. Il y a de bonnes paroles qui parfois nous enferment, par exemple. Alors je donne souvent cet exemple, je ne sais pas ce qu'il vaut, mais voilà, c'est toutes les bonnes fées qui viennent se pencher sur notre berceau avec des bonnes paroles, parfois, en tout cas des paroles qui peuvent sembler bonnes, quoi. Tu seras médecin, tu feras je ne sais pas quoi dans ta vie, voilà, tu seras ceci, tu seras cela, etc., et qui vont conditionner notre vie, qui vont nous enfermer dans un destin qui n'est peut-être pas le nôtre, finalement, qui n'est peut-être pas celui que Dieu veut pour notre vie, mais qui est celui que notre entourage pose sur nos épaules durant toute une vie. Et ça peut paraître positif, parce que ça part d'une bonne intention, on veut la réussite pour nos enfants, on veut qu'il leur arrive de belles choses, mais peut-être que parfois on désire pour eux des choses qui ne sont pas ce que Dieu a mis dans leur cœur à eux. Et ça, ce n'est pas une bénédiction. La bénédiction, c'est de dire la vérité que dit Dieu. Et donc cette vérité, on doit la chercher aussi. Quand on est dans l'accompagnement, par exemple, des personnes, et en particulier de nos enfants, on cherche cette vérité que dit Dieu sur la vie de nos enfants, et c'est cette vérité qu'on veut dire, qu'on veut affirmer sur leur vie. Dans ce passage, on voit que Caïn est marqué également. Il reçoit une marque. Et c'est intéressant parce que même dans cet état de malédiction où il va vagabonder, il va errer sur la terre, eh bien, il y a quand même une trace là de la bienveillance de Dieu, il y a une trace de l'amour de Dieu qui dit finalement qu'il met limite à ce qui va pouvoir lui arriver et qui le marque pour qu'il ne soit pas tué. Il va avoir une marque. C'est intéressant cette question de marquage, parce que des marquages, on en voit ailleurs dans la Bible. On en voit un, par exemple, assez connu en Apocalypse 13, les versets 16 et 17, qui nous parle de la marque de la bête. La marque de la bête. La bête fait, nous dit Apocalypse 13, qu'on impose à tous, petits et grands, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, une marque sur la main droite ou sur le front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. Il y a des marquages qui existent, comme celui-ci, la marque de la bête, où on a vu la marque qui est posée sur Caïn, qui est une marque, je dirais, inverse à celle de la bête, c'est un marquage de Dieu sur la vie de Caïn. Il y a des marquages dans nos vies à nous, alors c'est un peu éloigné, et encore on peut se poser la question de savoir si c'est vraiment éloigné compte tenu de l'actualité, mais on peut penser aux numéros qui étaient tatoués sur les prisonniers dans les camps de concentration. On peut penser aussi aux tatouages qui servent de signes de reconnaissance dans les gangs en Colombie ou ailleurs. Ce sont des marquages, là pour le coup des marquages physiques, et ces marquages ils indiquent à qui nous appartenons. Donc il y a des marquages qui indiquent à qui nous appartenons. En fait, ces marquages sont des signes d'esclavage. Alors la plupart des esclavages sont de mauvais esclavages qui nous mènent je dirais, à être coincé, enfermé dans des carcans. Et puis, il y a aussi de bons marquages, et notamment de bons marquages spirituels, parce qu'évidemment, là, on est en train de parler de choses spirituelles. Il y a la marque de la bête, mais il n'y a pas que la marque de la bête. On a lu, il y a quelque temps, en Exode aussi, j'avais prêché là-dessus, ce marquage qui dit « Le sang sera pour vous un signe sur les maisons ». Donc ça, c'est quand les Israélites vont marquer les linteaux des maisons. « Ce sera un signe sur les maisons où vous serez. Lorsque je verrai le sang, je passerai sur vous, et il n'y aura pas sur vous de fléau destructeur quand je frapperai l'Égypte. » Ça, c'est un marquage. Il y a en Ézéchiel aussi, où il est dit à un ange « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. » Il y a un marquage spirituel là pour les élus de Dieu. Et puis il y a, je dirais, un grand marquage dans le Nouveau Testament aussi, Éphésiens 1, verset 13, par exemple, qui dit « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, la bonne nouvelle de votre salut, en lui, c'est-à-dire en Christ, vous êtes venus à la foi et vous avez été scellés de l'Esprit Saint qui avait été promis. » Un sceau, je l'ai déjà expliqué, je crois, ici quelques fois, ça fait référence au sceau des rois, par exemple, hein, qui venaient poser un cachet sur la lettre pour authentifier que la lettre leur appartenait, qu'elle venait d'eux. Et quand nous venons à la foi, nous sommes scellés de l'Esprit Saint. Nous recevons sur notre vie ce sceau qui dit à qui nous appartenons. Et nous appartenons à Dieu, nous appartenons à Jésus-Christ. Et il y a aussi 2 Corinthiens 1, versets 21 et 22, qui dit la même chose, qui dit « Celui qui nous a fermis avec vous dans le Christ et qui nous a conféré l'onction, c'est Dieu. Il nous a aussi marqués de son sceau et il a déposé dans notre cœur les arts de l'Esprit. » Donc il y a une question de marquage là, qui traverse la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, et qui des marquages qui indiquent à qui nous appartenons. Ce qui peut nous marquer dans nos vies aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous marquer. Il y a des choses bonnes et puis des choses mauvaises. Un bon marquage, on l'a vu, et je dirais le marquage par excellence, c'est le baptême, en tout cas c'est la conversion qui se manifeste par le baptême, où nous recevons le sceau du Saint-Esprit, nous sommes marqués, nous appartenons à Jésus-Christ. Mais évidemment, il y a aussi d'autres choses qui peuvent avoir marqué nos vies. Et d'ailleurs, on le dit même dans le langage courant parfois, hein, ça c'est quelque chose qui m'a marqué, on l'utilise. Parfois ce sont des jolies choses, parfois ce sont des choses moins bonnes. Une malédiction, par exemple, peut nous avoir marqué, quelque chose qui nous a été dit il y a très très longtemps, une parole ancienne, mais qui nous est restée et qui a conditionné une bonne partie de notre vie. J'ai dit tout à l'heure que ça pouvait être une mauvaise parole, des choses mauvaises qui ont été prononcées sur nous, des paroles mauvaises qui ont été dites et qui nous ont, qui nous ont coincés, bloqués, mais aussi de bonnes choses qui ont pu être dites, mais qui ne correspondaient pas à la vérité de Dieu pour nos vies. Alors, je ne peux pas rentrer dans le détail, parce que ça, c'est à chacun de voir de quoi il peut s'agir. Mais toutes ces malédictions sont à rejeter, et si nous ne les rejetons pas, si nous les entretenons, finalement, si nous les amenons à faire partie de notre identité, elles deviennent quelque chose qui est de l'ordre d'un marquage spirituel, quelque chose qui vient nous marquer. Et puis, il y a également les abus ou les traumatismes. Les abus rentrent dans le cadre des traumatismes. C'est ce que je disais tout à l'heure, toutes ces choses dont on peut dire, ben ça m'a marqué. Alors parfois c'est beau, on a fait un beau voyage qui nous a marqué, très bien, puis parfois c'est moins beau. Et on sent que ça pèse sur nous, que ça pèse sur nos vies, on sent qu'on est coincé dans ce marquage qui a été généré par le traumatisme ou par l'abus. On sent que ça nous coince, que ça nous empêche. Alors, il y a un temps, évidemment, pour la reconstruction, et c'est bien normal. On ne sort pas de traumatisme comme ça du jour au lendemain, en général. Parfois, oui, mais souvent, ça prend quand même un peu de temps. Mais parfois, on prend un autre chemin qui est ce chemin de s'enfoncer dans une identité à nouveau et qui est là, du coup, de l'ordre du marquage, c'est-à-dire que ça vient à faire partie de qui nous sommes. On peut s'enfoncer dans un statut de victime, par exemple. Et on devient notre traumatisme. Ça vient à faire partie de notre identité, c'est ce qu'on est, et du coup, on ne peut pas en sortir, en fait. On peut aussi, sur la question des abus, on peut aussi s'installer, je dirais, dans un statut de personne abusée. Et ça aussi, ça entraîne un marquage spirituel sur nos vies qui fait que, enfin, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, mais il y a vraiment des gens qui tombent systématiquement sur des abuseurs, en fait, et qui ne comprennent pas pourquoi, parce que ce n'est pas qu'ils veulent, évidemment. Et puis, ce n'est pas écrit sur leur front que ce sont des abuseurs, sinon, évidemment, ils les éviteraient. Et pourtant, ces schémas se répètent une fois, une autre fois, et on se pose la question de pourquoi. J'ai vécu ça, moi, dans ma jeunesse. Alors là, c'est hyper dangereux ce que je fais, parce que du coup, je pars... Bref. Mais j'ai vécu ça dans ma jeunesse, dans les relations que je pouvais avoir, parce que j'avais une maman malade et que j'ai passé, moi, une bonne partie de mon enfance à essayer de sauver cette maman malade. Et bizarrement, toutes mes relations amoureuses, je veux dire, étaient des relations où les jeunes filles qui étaient en face de moi et de qui je tombais amoureux étaient des jeunes filles qui avaient besoin d'aide, en fait. Et je voyais des gens plutôt bien, sains, tout ça. Et puis finalement, c'était toujours des personnes qui avaient des soucis psychiatriques, qui avaient de grosses difficultés. Mais je rentrais, moi, dans ce schéma-là, parce que j'avais grandi dans cette attitude-là. Et finalement, on se reconnaissait l'un l'autre. On pourrait le dire comme ça, mais c'est inconscient, mais on se reconnaît l'un l'autre. Et c'est ça, les marquages. Je savais reconnaître, d'une certaine manière, même quand ça ne se voyait pas, quelqu'un qui n'allait pas bien, et cette personne qui n'allait pas bien, certainement, savait reconnaître en moi le type qui prétendait être capable de la sortir de là où elle était. Alors, autant dire que ça mène nulle part, évidemment, parce que ce n'est pas moi le sauveur, ça se saurait. Et qu'on ne construit rien, en tout cas, dans ce genre de relation, on ne construit rien sur ce genre de base. Alors, peut-être que vous êtes marqué par quelque chose dans votre vie qui est autre chose que le sceau du Christ. Vous pouvez être chrétien et être quand même marqué par autre chose que le sceau du Christ sur un aspect ou un autre de votre vie, parce qu'il y a quelque chose... un marquage duquel vous n'avez pas été libéré. Et en Christ, nous sommes une nouvelle créature, c'est ce qui nous est dit. Toutes ces choses-là sont passées, nous sommes une créature nouvelle. Et dans cette nouvelle création, nous sommes débarrassés de ces marquages spirituels. En tout cas, nous devrions l'être. C'est comme d'habitude avec le Seigneur, tout ça fonctionne par la foi. Nous devons y ajouter foi. C'est-à-dire que quand nous repérons un de ces marquages, on peut en repérer parfois 20 ans après, on peut se dire, bah oui, tiens, effectivement, cette chose-là m'a maintenu, m'a tenu captif, cette chose-là a conduit ma vie, bonne partie de ma vie, au lieu du Seigneur. Ce n'est pas le Seigneur qui a conduit ma vie dans cet aspect-là de ma vie. Eh bien, c'est jamais trop tard, en fait. C'est jamais trop tard pour remettre les rênes dans les mains de Dieu, dans les mains de Jésus-Christ, qui nous a délivrés de ces choses-là. Et donc, pour faire ça, eh bien, déjà, il faut débusquer ce marquage, le reconnaître, dire c'est vrai, ça m'a marqué, et le refuser. Le refuser dans la prière. Dire devant Dieu, ce marquage-là, il ne m'appartient pas, en fait. Il a été posé par un autre, il n'a pas été posé par toi, il a été posé par quelqu'un d'autre, peu importe qui, si vous savez qui, vous pouvez le nommer, et vous réaffirmez votre appartenance au Dieu de Jésus-Christ. Je vais prier dans ce sens-là, si vous voulez bien. Et puis, une fois n'est pas coutume, je vous rappelle que si vous êtes concerné par ce sujet et que vous ne savez pas vous en dépatouiller, vous ne savez pas exactement, je ne sais pas, peut-être comment prier ou qu'est-ce qu'il faut faire, comment... Voilà, on a compris le problème, mais on n'a pas compris exactement ce qui nous est proposé pour essayer d'en sortir. Eh bien, je répète qu'il y a des gens ici qui peuvent vous accompagner. Donc, vous prenez contact avec moi et je vous mets en contact avec des personnes qui peuvent vous aider. Ce sont des rendez-vous uniques qui sont courts. Ça dure une heure et demie, ça dépend. Ça dépend de vous, surtout. Donc, et c'est tout, en fait. Ensuite, on vous donne les outils dont vous avez besoin pour pouvoir poursuivre votre chemin avec le Seigneur en autonomie, je dirais, en tout cas en autonomie et en dépendance à lui plutôt qu'à nous. C'est toujours mieux. Je vais prier. Seigneur, je ne sais pas à qui tu t'adresses ce matin et je ne sais même pas pourquoi tu m'as amené sur cette prédication ce matin qui n'était pas du tout celle que j'avais prévue. Mais toi, tu connais toutes choses, tu connais le cœur des uns et des autres, tu sais pourquoi les gens se sont levés ce matin pour venir ici et parmi nous, il y en a peut-être qui sont venus pour écouter ce que tu m'as mis à cœur. Alors c'est pour eux que je veux te prier. Je te prie pour tous ceux qui et toutes celles qui ont pu reconnaître ce matin ce marquage dont j'ai parlé, qui a impacté leur vie durablement. Cette parole qui a été posée sur eux et qui les a guidés en lieu et place de ton Fils Jésus-Christ. Parce que lui est le bon berger, lui nous emmène vers de verts pâturages, et que les malédictions qui ont pu être prononcées sur nous, même quand elles paraissaient être de belles paroles, eh bien, voilà, certaines personnes peut-être aujourd'hui peuvent constater que ça ne les a pas menées là où toi tu les aurais emmenées. Seigneur, toi tu es bon, et... on voit avec Caïn que même dans une situation qui nous amène à vagabonder, eh bien, même dans cette situation-là, tu as posé ta marque sur Caïn. Ta marque à toi. Seigneur, c'est ce que nous voulons pour nos propres vies. Cette marque, le marquage par excellence, c'est le baptême. Mais c'est aussi toutes les paroles de vérité que toi tu prononces sur nous et qui viennent se mettre en lieu et place de tous les mensonges que nous avons entendus. Alors ces mensonges, nous voulons les rejeter aujourd'hui, affirmer que ce sont des mensonges, qu'ils ne nous concernent pas et affirmer que nous t'appartenons. Et peut-être même que nous n'avons pas complètement conscience de quelle est la vérité qui est la tienne et qui devrait venir se mettre à sa place. Mais nous te faisons confiance et nous affirmons que nous t'appartenons, que c'est toi le guide de notre vie, que ce n'est pas ce que les autres ont pu dire de nous, que ce n'est pas ce que les autres ont pu faire avec nous, que nous n'appartenons pas à nos traumatismes. Nous t'appartenons à toi. Et toi, tu nous libères de ces choses-là. Nous ne sommes pas des victimes. Nous avons été victimes. Nous ne sommes pas des personnes abusables. Nous avons été abusés. Ce sont des accidents de parcours douloureux qui, effectivement, ont pu nous marquer profondément, mais jamais aussi profondément que ton sceau à toi. Seigneur, ces marquages-là, nous les retirons aujourd'hui au nom de Jésus. Nous les refusons. nous interdisons à l'ennemi de venir les apposer à nouveau. Et à chaque fois que nous voyons qu'il tente de revenir avec ses paroles qui ont été posées sur nous, de revenir avec la mémoire des traumatismes passés, nous nous dressons et nous refusons parce que tu as fait toute chose nouvelle, que nous sommes une nouvelle créature, que tu nous as appelés à la liberté. Alors nous voulons vivre conformément à ta parole qui nous amène à vivre libre. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Je vais inviter l'équipe de louanges à revenir.